Avant toute chose, voici la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu. Rien à craindre de lui, mais tout à espérer pour chacune et pour chacun. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le feuillet qui est au début du psautier français. Bénissons Dieu, le seul Seigneur. Ô Éternel, nous te rendons hommage, car tu es notre Dieu de génération en génération. Tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est toi que depuis toujours nous remercions pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis, pour nos âmes que tu gardes, pour nos pas que tu éclaires et pour tes miracles de tous les jours envers nous. À toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté, ta miséricorde ne s'arrête jamais. Père éternel, tes grâces ne tarissent jamais et depuis toujours, tu es la source profonde de notre joie. Je vous propose de chanter au psaume 25 dans notre psautier français, les strophes 1, 2 et 4. Vous pouvez prendre place. Et je voudrais souhaiter un chaleureux bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Oui, c'est une force et une joie de se rassembler ainsi pour chercher ensemble la parole de Dieu et puis pour rendre un culte de louange, de reconnaissance à ce Dieu qui nous donne la vie. Et puis je voudrais souhaiter un bienvenue tout particulièrement à Thomas Dunoyer qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Et c'est un cadeau, c'est un don qu'il nous fait d'avoir le courage ainsi de se lever et de nous dire sa foi en Dieu au milieu de nous. Voici les 10 paroles qui nous ont été données pour vivre, selon le témoignage donc de Moïse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te libère de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir, car je suis l'Éternel ton Dieu. Tu ne prendras pas en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne trahiras pas ceux qui t'aiment. Tu ne feras pas de vol. Tu ne diras pas de mensonge contre ton prochain. Et tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Et voici comment Jésus-Christ a résumé toute la loi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que cela. Face à cet idéal infini de l'amour, bien sûr, nous nous reconnaissons comme ayant besoin d'avancer, de progresser, et nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide avec ce psaume de David. Des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Éternel, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Éternel, Éternel qui subsisterait. Mais près de toi se trouve le pardon pour que toujours l'homme puisse se tourner vers toi. J'espère en l'Éternel de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend l'Éternel plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, ainsi son peuple attend l'Éternel. Car près de l'Éternel est l'amour, près de lui est le salut. Il rassemble son peuple, pardonnant toutes ses fautes. Amen. Mais voici ce que déclare l'Éternel à chacune et à chacun. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et en Christ, notre Dieu se penche vers nous et nous dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
Thank you.
pouvez prendre place. Et donc j'accueille Thomas avec grande joie. Thomas qui a demandé donc à recevoir le baptême parmi nous ce matin. Donc merci beaucoup. Thomas, vous êtes né donc dans une famille qui n'avait pas de religion, mais vous avez senti au plus profond de nous-mêmes qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un Dieu, et puis vous avez cherché différentes pistes de spiritualité, de foi, de religion. Et puis finalement, c'est dans le christianisme que vous avez choisi d'inscrire ce chemin spirituel, plus particulièrement dans le protestantisme. Bon, c'est vrai que ça nous fait assez plaisir que ça soit en plus à l'oratoire, donc parmi nous ce matin. Vous avez entrepris de lire la Bible, et puis vous avez choisi de recevoir le baptême, le signe donc de cette grâce de Dieu qui vous a précédé avant même que vous commenciez à le chercher. Alors ce chemin vous conduit ce matin ici, et c'est vraiment pour nous un don. Ce baptême, c'est le signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier, Thomas. Avant que vous le cherchiez, bien sûr, il était déjà près de vous, et donc ce n'est pas le geste du baptême qui fait que Dieu sera plus aimant pour vous, plus source de vie pour vous, mais c'est une façon donc de marquer une étape dans votre cheminement, le marquant votre route, donc de la pierre blanche de cet amour de Dieu sur votre route. Rien ne vous privera de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni celles à venir. Oui, Dieu est, restera, la source vive sur votre route. Éternel notre Dieu, tu as donné ton esprit de lumière et de vie à Thomas, tu l'as accueilli dans ton alliance. Que ce baptême soit vraiment le signe de tous ces dons que tu lui apportes, que tu veux pour lui. Qu'avec le Christ, il devienne, jour après jour, de plus en plus vivant, et même de plus en plus source de vie pour ceux qui sont autour de lui. Source de foi, source d'amour, source d'espérance, source de pardon, force de réconciliation. Oui, nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils et notre frère. Amen. Et donc Thomas, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Thomas, recevez cette bénédiction qui vient de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous sanctifie. Il vous accompagne sur la route que vous choisirez. Dieu est fidèle, il vous soutiendra dans les moments difficiles, il vous éclairera dans les belles journées, il vous donnera de la joie et de la force à toute heure. Vous serez une bénédiction pour ceux qui vous sont confiés. Oui, Dieu vous conduira sur le chemin de la vie, dans sa paix, sa force et sa joie. Alors le baptême est le signe de l'amour de Dieu, amour que Dieu a pour chacun en particulier. Et dans la liberté que Dieu nous donne, justement, grâce à cet amour sans condition, nous pouvons choisir d'entrer ou de ne pas entrer dans son alliance. Aujourd'hui, Thomas, vous répondez à l'amour que Dieu a pour vous en particulier en choisissant de devenir disciple de Jésus-Christ. À ce Dieu qui vous dit « Tu es mon Fils bien-aimé », vous répondez dans votre cœur. Et puis aujourd'hui, dans son Église, dans l'Église chrétienne, l'Église universelle qui dépasse toutes les institutions, tous les pays, vous lui répondez « Tu es mon Dieu, je veux vivre en Christ ». Et donc Thomas, en communion avec tous les chrétiens, voulez-vous confesser la foi de l'Église universelle ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors vous avez préparé une confession de foi, et ça sera notre confession de foi pour notre Église ce matin, donc je vous propose de vous lever pour vous unir à cette déclaration de foi chrétienne. Vous le dites, oui. Ou ce que vous voulez, c'est bon.
Je crois en Dieu notre Père, et en son Fils Jésus-Christ, venu nous sauver et nous guider vers la lumière. Je crois en l'amour infini plus qu'en la mort. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de notre Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen.
Un grand merci, Thomas, pour cette confession de foi, pour l'avoir dite au milieu de nous. C'est pour nous un cadeau, un don que vous faites à chacun, et nous repartirons avec ces paroles qui sont pour chacun de nous. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors nous proposons des engagements, mais c'est plus une façon de marquer que le baptême et la confession de foi est voilà, une pierre sur le chemin, mais un chemin qui se poursuit, qui se continue. Et ben, qu'il est bon d'essayer de vivre en cohérence avec ce cheminement. Bon, cela dit, nous ne sommes pas, bien sûr, à l'usine et nous faisons tous ce que nous pouvons. C'est pourquoi ces engagements, ils sont faits en comptant sur l'aide et la force que Dieu nous donne. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur. Et puis, c'est chercher à le suivre, car il est notre Seigneur. Alors, Thomas, voulez-vous essayer, donc, avec le secours du Saint-Esprit, d'aimer Dieu de tout votre être et puis d'aimer votre prochain comme vous-même?
Oui. Oui.
Eh bien, Dieu vous donnera la force et la joie de suivre ce cheminement. Thomas, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce de Dieu par votre foi personnelle. Nous vous recevons avec joie comme membre de l'Église universelle, de l'Église de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit qui est en vous vous affermisse jour après jour dans tous les dons que vous avez, qui sont les vôtres, les dons que Dieu vous a donnés en particulier et qui fait que vous êtes une personne absolument irremplaçable dans l'univers tout entier. Et pour que Dieu vous donne ainsi de vivre, de grandir et de cheminer, nous nous tournons vers lui dans la prière. Ô notre Père, nous te remercions pour Thomas que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie et plus grande encore, nous le savons, est la joie dans le ciel, la joie dans l'humanité tout entière, pour ce moment de foi, de confiance en toi, pour ce moment de vérité. Bénis pleinement Thomas, éternel notre Dieu, et bénis à travers lui ses proches, ceux qu'il aura croisés, ses amis, ses collègues. Le geste de Thomas est parmi nous un témoignage de foi. Eh bien, aide-nous, nous-mêmes, jour après jour, à avoir ce courage de la foi, ce courage du témoignage, courage de nous approcher jour après jour, sans cesse, plus de toi, être plus confiant dans ton amour, dans ta parole, et à être un peu plus en vérité au service des autres. Oui, que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Grand merci, Thomas. Je vais vous lire ce matin pratiquement tout le livre du prophète Agée. Alors le nom du prophète Agée est un peu rigolo en français, peut-être en fait qu'il n'était pas si âgé que ça, ou peut-être qu'il était âgé et qu'il ait connu le temps du temple du roi Salomon avant qu'il soit détruit, 65 ans avant que le peuple d'Israël revienne de cet exil forcé à Babylone et qu'il entreprenne de reconstruire ce temple. Mais en fait, le nom de cet homme, âgé, signifie en fait être en fête, être en joie. Alors son nom est déjà un programme, c'est à une fête qu'il nous invite à travers ses paroles. Alors, j'ai quand même coupé quelques versets pour que ce soit moins long, mais vous pourrez lire ça en devoir de vacances chez vous à la maison. J'ai coupé une dizaine de versets dans les 38, je crois, de ce livre. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à José, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel des puissances. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de bâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. « Est-ce le temps pour habiter, pour vous, vos demeures lambrissées, quand cette maison est desséchée ? Ainsi parle maintenant l'Éternel des puissances. Considérez attentivement vos voies, vos cheminements. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et pourtant vous frissonnez de froid. Le salaire de celui qui est à gage tombe comme dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des puissances. Considérez attentivement vos cheminements. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit l'Éternel des puissances. À cause de ma maison qui est desséchée, tandis que vous vous empressez chacun pour sa propre maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et que la terre a refusé ses produits. J'ai appelé sécheresse le pays, les montagnes, le blé, le mou, l'huile. La terre peut rapporter. Tout ce que sur les hommes et sur les bêtes, tout sur le travail de leurs mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agée, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, un véritable ange de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Il réveilla l'esprit de Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur. Il réveilla l'esprit de tout le reste du peuple. Et ils virent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des puissances. Leur Dieu. Ils se mirent à l'œuvre le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Et le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla encore par Agée le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Parle à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, et parle au reste du peuple et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas rien à vos yeux ? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Fortifie-toi, Josué, fils de Yotsadak, souverain sacrificateur, et fortifie-toi, peuple tout entier du pays, dit l'Éternel. Et maintenant, travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des puissances. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Et mon esprit est au milieu, il est au-dedans de vous, ainsi ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des puissances, encore un peu de temps, et j'ébranlerai pour vous les cieux et la terre, la mer et ce qui est sec. J'ébranlerai toutes les nations, et le meilleur de toutes les nations viendra. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des puissances. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des puissances. La gloire de cette maison dernière sera plus grande encore que celle de la première, dit l'Éternel des puissances. Et c'est bien dans ce lieu-là que je donnerai la paix. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple a été fondé. Considérez-le attentivement. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont pas apporté grand-chose, mais dès aujourd'hui je donne ma bénédiction. Et en ce jour, dit l'Éternel, je te prendrai, toi, mon enfant, je t'établirai comme le pouvoir du roi, car c'est toi que j'ai choisi. Ô Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et je vous propose, dans cette espérance donc d'un Dieu bien vivant en nous-mêmes, de chanter le psaume 42 comme un cerf alter ébram, les trois premières strophes de ce psaume 42 qui rêve lui aussi donc d'un temple de l'Éternel retrouvé.
Thank you.
Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne maintenant parole de vie pour nous. Que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles et dans nos mains des gestes qui donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est divin en chaque être humain. Rends-nous aussi attentifs aux besoins de nos corps, de nos intelligences, de notre sensibilité. Oui, ouvre-nous à cette espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Le prophète Agée nous dit que tout est prêt pour que notre vie soit comme une fête. Il nous dit dans ce livre que tout est prêt, que tous les fondamentaux sont là, il ne manque que le signal finalement pour que la fête commence. Notre être, notre vie, ce monde, elle serait un peu comme une voiture puissante dont le plein est fait, carburateur réglé, et il ne manque juste simplement qu'on démarre le moteur et puis qu'on s'élance, qu'on prenne la route. Il ne manque qu'une chose, c'est que la vie s'anime. C'est à la fois presque rien et c'est tout. Parfois, nous dit ce texte, tout est prêt pour que la fête soit là, et pourtant c'est la tristesse. C'est le cas de notre monde où nous avons infiniment plus pour être heureux qu'il y a 100 ans, mais où parfois nous avons l'impression que nous patinons dans la semoule, en fait, comme dans ce texte du prophète Agée. Il nous parle d'un travail fait avec ardeur, mais qui ne nous fait pas avancer. Nous avons de la nourriture, mais elle nous laisse sur notre faim. Nous avons des vêtements, mais ils ne nous réchauffent pas le cœur. Nous avons plein de boissons, mais nous brûlons de fièvre. Même l'argent file sans que nous sachions par quel trou il part, nous dit le prophète. Alors ça, je connais aussi. Pourtant, dans la situation décrite par le texte, ce texte qui est un miroir pour notre propre existence, notre peuple, notre humanité, tout est en place. Il y a un roi et un bon roi, en fait. Zorobabel, fils de la prière à Dieu. Que demander de plus ? C'est parfait. Il y a un grand prêtre qui fait son office, Josué. Josué, c'est le même nom que Jésus, fils de l'Éternel. En plus, Josué est fils de la justice de Dieu. Alors si l'idéal pour la religion, d'être le salut de l'Éternel, fils de la justice de Dieu. Il y a un peuple tout entier qui vit et qui travaille dans ce texte, qui sème, qui cultive. Et puis il y a enfin un prophète qui est un véritable ange de l'Éternel, nous dit le texte. Ce prophète parle avec bienveillance et avec sagesse, il nous parle de la vie qui est faite pour être belle et il nous invite à une fête. Et tout le monde écoute le prophète et il se mobilise en 3 semaines seulement. Et enfin et surtout, il y a ce Dieu. Dieu qui est au milieu de ce peuple, nous dit Agée. Dieu qui est même en nous, nous dit le prophète. Et ce Dieu n'est pas le moindre des petits atouts dans l'existence. Il s'appelle Yahou Tsebaot. Expression qui dit à la fois la tendresse infinie qu'est ce Dieu. Ce n'est pas le Dieu fort, elle, mais c'est YHWH, Yahou, qui est la source du pardon, source de l'être en nous. Et puis en même temps, le Tsebaot dit la force prodigieuse de Dieu en nous. C'est le Dieu des puissances, parfois c'est traduit l'Éternel des armées, mais ce n'est pas c'est une armée de puissance spirituelle, d'amour en fait. Ce Dieu, nous dit Agée, est le Dieu de tous les retournements possibles, capable d'ébranler l'univers, de l'ouvrir comme une pastèque pour nous ouvrir une brèche, un chemin de salut si nous étions dans une impasse. Ce Dieu est là avec nous, nous dit Agée. Il est là pour nous, selon sa promesse. Il est même en nous par son esprit, nous dit le texte. Alors que nous manque-t-il ? Eh bien rien. Tout est là. Il manque juste un déclic pour que ça prenne vie. Il nous manque de trouver le bouton, de démarrer le moteur et de s'élancer sur la route que nous choisirons. Il manque parfois un tout petit quelque chose pour se lancer, pour que ça tourne du bon côté, pour que notre façon de voir et de vivre change en fait. Change de logiciel, change de rythme, et que ça prenne vie, que ça avance. Par exemple, quand nous n'avons pas le moral ou dans une dispute, parfois, un petit déclic de rien du tout peut venir et nous sauver finalement. Un geste qui déride l'atmosphère, une parole, un souvenir, un éclair de lucidité, juste pas grand-chose, mais tout d'un coup, la paix, la joie peut venir progressivement et nous envahir, retourner la situation. Alors nous avons tout pour être quelqu'un de génial, dans une vie géniale, une vie qui est faite pour être une fête, nous dit le prophète. Si seulement nous pouvions ouvrir les yeux et voir la merveille que nous sommes, animés d'un souffle divin, de tendresse, d'intelligence, de créativité personnelle, au point que nous sommes dignes, nous dit le prophète à la fin de ce texte, d'être un signe vivant de Dieu, de son pouvoir dans le monde. Mais l'Esprit de Dieu sommeille parfois en nous. Il est comme absent, sans l'être pour autant. Nous sommes, chacun d'entre nous, ce roi, ce bon roi, ce prêtre, ce bon prêtre, ce peuple tout entier au travail qui espère et que Dieu, lui, espère réveiller l'esprit divin, le souffle divin qui est en eux. Alors le roi, c'est celui qui décide et qui gouverne. Nous sommes ce roi, chacun d'entre nous. Le roi, c'est notre liberté, notre capacité à réfléchir, à prendre des décisions. Nous sommes le prêtre aussi et même le grand prêtre en Christ. En ligne directe avec Dieu, digne de s'adresser, de tutoyer Dieu, de l'appeler par son nom. Mais nous ne sommes pas seulement un être de pensée et de prière avec le roi et le prêtre. Nous sommes aussi, à travers ce peuple multiple, nous sommes aussi un être d'action dans les multiples dimensions de notre vie. Nous sommes donc aussi le peuple dont parle Agée ici. Nous sommes ce roi, ce prêtre, ce peuple, et nous sommes même ce prophète, cet ange de l'Éternel qui nous invite à la joie, qui nous invite à nous rassembler pour qu'il y ait la joie et qui nous dit que l'Esprit nous a déjà été donné, non seulement au roi, au prophète, mais aussi à tout le peuple et donc à toutes les fibres de notre être, même au dernier petit orteil de notre pied gauche. Selon sa promesse, Dieu est là, auprès de nous, il est en nous. Il est aussi entre nous tous, quand il y a de vraies relations, de vrais liens, de compassion, de respect, d'amitié, d'amour entre nous. Il n'y a plus qu'à. Tout est là. Il manque un déclic. Alors que conseille le prophète, il semble en première lecture qu'il nous invite à nous rassembler, à rassembler nos forces, tous ensemble, pour reconstruire le temple de Jérusalem. Mais à y regarder plus près, en fait, le texte, les mots, il semble au contraire que ce texte est ironique par rapport à la construction de ce deuxième temple de Jérusalem, sous l'impulsion de Zacharie, pour appeler à une autre dynamique de construction bien plus spirituelle. En effet, le prophète ne nous appelle pas à reconstruire le temple, mais simplement à le construire. Et puis il ne parle pas d'un temple qui est en ruine, il y a des mots pour dire ça, mais il nous parle littéralement que la demeure de l'Éternel est desséchée. Et il insiste ensuite à plusieurs reprises pour dire que ce temple qu'il nous propose de construire n'a rien à voir avec le premier temple, qui passera alors pour quasiment rien du tout malgré sa gloire d'alors. Parce que la maison qu'il nous propose de construire n'est pas comme la maison première, ce temple premier, mais que c'est la maison dernière, la maison ultime, et que c'est en elle, dans cette maison-là, pas dans la première, que Dieu donne vraiment la paix. Et le mot « paix » en hébreu est bien plus riche que simplement la paix intérieure et la paix entre nous, qui nous est aussi promise par l'Esprit de Dieu. Mais la paix en hébreu, le shalom, c'est l'aboutissement, l'accomplissement de la construction de notre être et de l'humanité. Alors oui, la gloire de l'Éternel sera présente. La gloire de l'Éternel, là aussi, c'est un terme technique. Dans la Bible, ça parle de la dynamique d'évolution et de vie qu'est en Dieu, celle qui permet aux Hébreux de sortir de l'esclavage pour aller vers l'accomplissement de la promesse de Dieu en nous. Alors oui, la gloire de Dieu, cette dynamique d'évolution et de vie sera pleinement manifestée en nous. Par ailleurs, le prophète répète que Dieu est et restera auprès de nous, même sans temple de Jérusalem en fait. Que déjà c'était ainsi bien avant que le temple ne soit construit, le premier temple. Il dit que c'était déjà comme ça du temps des Hébreux, donc bien avant David, bien avant Salomon. Il dit que c'est en nous en fait, au-dedans de nous, au milieu de nous, que Dieu habite par son esprit. Et évidemment, Salomon le savait bien, que Dieu n'habite pas dans un temple de pierre. L'univers entier ne suffit pas à accueillir. Il nous dit que oui, Dieu habite par son souffle, par son Esprit Saint, au milieu de nous, en nous. Le temple est déjà là finalement, mais alors qu'y a-t-il à construire ? Puisque Dieu est déjà là dans un temple de notre corps, de notre humanité, même si nous ne le savons pas. Eh bien rien, il n'y a rien à construire, ou presque rien à construire en fait. Il y a juste peut-être à saisir que Dieu est en nous et qu'il espère s'éveiller en nous. Et que pour ça, il a besoin ne serait-ce que d'un tout petit peu d'espace pour vivre, pour bouger, pour s'éveiller. Pour ça, il faut que nous construisions ne serait-ce peut-être que l'espace d'une toute petite cabane en planche à l'intérieur de notre être, au creux de notre être, de nos relations, de notre humanité, de notre maison. Alors quand cette puissance, ce souffle ou cette gloire, bon ce sont des images bien sûr, pour parler de cette dynamique de Dieu, se réveillera, alors là oui, ce sera la fête et nous avancerons, nous serons vivants et vivifiants. Alors le prophète que nous sommes sera entendu, le roi que nous sommes sera capable de prendre librement de belles décisions selon notre personnalité, selon nos goûts, selon nos projets. Et puis nos actes, enfin, suivront ce que notre tête, notre cœur et l'esprit en nous aura décidé, en fait. Alors le grand prêtre qui est en nous sera en communion de confiance avec Dieu au lieu d'être dans la crainte. Alors nous n'aurons plus peur de Dieu, nous dit Agé. La peur de Dieu n'a aucune raison d'être, nous dit-il à plusieurs reprises dans ce texte. Même quand nous ne sommes que comme une maison desséchée pour l'Esprit de Dieu en nous, même quand l'Esprit de Dieu est tout étroissé en nous, endormi, Dieu est et restera fidèle à son alliance d'amour et de paix. Alors ça n'a aucun sens d'avoir peur de Dieu, d'avoir une crainte de Dieu, nous dit Agé. C'est même contre-productif pour que l'Esprit s'ouvre en nous, se déploie. Car cette crainte assèche la joie de Dieu en nous. Cette crainte de Dieu fait peser un soupçon de peur sur ce que Dieu pourrait nous apporter, sur ce contact avec Dieu, sur cette relation avec Dieu. Et donc, accepter comme avec un peu de réticence, comme sous la menace, ce que Dieu a en réserve pour nous, alors que ce n'est qu'un dynamisme positif pour nous, capable d'ébranler le ciel et la terre, capable d'ouvrir des brèches dans les rochers et dans les océans pour nous libérer de ce qui nous empêche de vivre, d'être heureux et d'être ensemble humainement. Dieu libère et rassemble en nous ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. Ça, il le garde, il le rassemble il le rapproche. Alors Agé y va fort, en fait, dans son discours contre les institutions qui se prennent pour Dieu. Alors quand il élimine la crainte de l'Éternel pour nous inviter au contraire à une confiance absolue dans sa fidélité, le prophète ridiculise les églises et leurs chefs qui aiment à utiliser cet outil puissant de la crainte de Dieu pour dresser leurs fidèles et puis leur imposer leur théologie, la théologie des chefs de l'Église, et qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes surtout, pour imposer leur morale, pour imposer leur jugement, et puis pour qu'ils viennent bien sagement tous les dimanches à l'Église, le mercredi à l'étude biblique, et puis qu'ils donnent 10% de leur argent à la quête. Cet enseignement contre la peur de Dieu est bien sûr repris par Jésus à de multiples reprises avec ses « n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble pas ». Puis par l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains par exemple, « nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions à Dieu, Papa ». Et puis par Jean, dans sa première lettre, le disciple bien-aimé, qui dit que l'amour parfait de Dieu chasse en nous toute crainte du jugement de Dieu. Alors Agé, déjà, il y va fort en luttant contre la crainte de Dieu, mais Agé remet aussi à sa place la religion quand il reconnaît que le temple de Jérusalem, formidable temple de Salomon, avait une certaine gloire, c'est-à-dire que le rite et les symboles religieux apportent un certain bienfait pour les humains. Alors merci pour la religion, merci pour notre culte, mais il est bon quand même de ne pas confondre, nous dit Agé le prophète. Ce n'est là qu'un premier temple dans ce cheminement. Le temple ultime, c'est autre chose. C'est en chacun de nous et dans l'amour qu'il peut y avoir entre nous qu'est le temple final, le temple dernier. C'est ça l'objectif. C'est ça qu'il convient de réveiller aujourd'hui. Alors si le premier temple de notre culte peut aider, tant mieux. Mais la visée, c'est un autre temple, une autre habitation. Alors comment réveiller l'esprit en nous ? C'est Dieu qui a mis son esprit en nous et c'est lui qui réveille l'esprit en chacun, dans le roi, dans le prêtre, dans tout le peuple, nous dit le texte. Cet esprit, en fait, n'attend qu'un déclic pour pouvoir se réveiller et Agé nous donne trois petits conseils très simples. Ainsi parle l'Éternel des puissances, c'est à lui qu'est la puissance. Considérez attentivement vos cheminements, montez sur la montagne, « apportez des arbres et bâtissez là, la maison, et j'en aurai de la joie, dit l'Éternel, et je serai glorifié. » Alors ces conseils sont manifestement pas très utiles pour une construction matérielle du temple. D'abord parce que, considérez attentivement vos chemins, le chemin pour aller au sommet de la collinette de Jérusalem ne demande pas d'être un expert en orientation et en GPS pour le trouver. Et ce n'est pas en montant sur cette montagne que nous allons trouver des forêts formidables permettant de trouver des bois de construction. Ce serait plutôt en allant d'abord dans les forêts de cèdres du Liban. Voilà un bon conseil qui aurait été utile avant de retourner et de monter sur la montagne. Mais ces conseils sont manifestement utiles pour la vie de l'esprit en nous. D'ailleurs, dans la suite, Agé nous dit que ce qui est visé ici, c'est de nous fortifier pour agir, que le roi soit fortifié, il insiste bien, ce bon roi, que le prêtre soit fortifié en nous, que le prophète soit fortifié, que le peuple tout entier prenne de la force. L'enjeu est donc effectivement la dynamique de notre être tout entier, et pour cela, ces quelques conseils très simples nous sont donnés. Se placer devant la présence aimante de Dieu, présence aimante puissante de Dieu et de considérer attentivement notre cheminement, examiner, nous dit-il ensuite, ce qui a évolué entre le passé et aujourd'hui. C'est très concret. Est-ce que j'ai évolué dans le bon sens? Est-ce que ma foi change quelque chose dans ma vie, dans ma pensée, dans mes paroles et dans mes actes? Est-ce que je suis un peu plus libre, un peu plus aimant, un peu plus joyeux et un peu plus fort? C'est peut-être pas le cas. Il n'y a alors pas lieu de se culpabiliser, c'est en l'Éternel qu'est la puissance. Nous en sommes incapables de nous transformer. Et puis, l'Esprit demeure en moi. Il est déjà donné. Je suis, même quand l'Esprit n'est pas vivant, agissant en moi, je suis encore aimé, choisi, appelé par Dieu, habité par Dieu. Tout est en place pour que ça avance. Il manque juste un déclic. Il faut simplement laisser réveiller tout ça et faire qu'en moi-même, il n'y ait pas seulement le moi d'hier, mais qu'il y ait l'Esprit de Dieu en moi qui m'apporte une joyeuse dynamique de vie et de paix et que je sois le moi d'aujourd'hui et puis le moi de demain. Alors si c'est en panne, si c'est un peu en panne ou beaucoup en panne, complètement en panne, un peu endormi ou beaucoup endormi, c'est que le temple en nous est desséché, l'esprit endormi. Alors, montez sur la montagne, nous conseille le prophète. Un peu d'élévation remet les choses en perspective. Alors dans la Bible, la montagne, ça évoque le culte et la prière. Alors oui, c'est qu'une étape hein, dans cette construction. Mais ce n'est pas un gros effort à faire finalement. Mais il faut le faire en demandant à Dieu finalement, par sa puissance, de venir lui-même réveiller son esprit en nous. Et alors nous pourrons apporter des arbres et construire ne serait-ce qu'une petite cabane laissant un peu d'espace en nous afin que l'esprit puisse commencer à s'ébrouer un peu. Mais si nous n'avons rien, comment aurions-nous les arbres qui nous permettront de faire des planches? Comment aurons-nous des arbres si ce n'est Dieu qui nous les donnerait? Eh bien, c'est ce que souligne le texte un peu plus loin. Agé nous dit oui, par nos propres forces, sans la dynamique de la bénédiction de Dieu, nous n'avons même pas les premières graines de ces futurs arbres. Mais déjà, nous dit Agé, si nous considérons bien en nous le passé et le présent, déjà, l'Éternel commence aujourd'hui à porter sa bénédiction. Et quatre arbres, nous dit le texte, se commencent à être présents en nous, ont commencé à pousser. Ces quatre arbres sont bien connus dans la Bible pour leur sens symbolique. Le premier arbre n'est pas bien grand, mais quand même, ce premier arbre, c'est la vigne. Elle évoque dans la Bible le travail de l'homme dans sa vie quotidienne, dans le monde, mais plutôt la vigne évoque l'humble travail de l'homme qui taille sa vigne, mais en sachant très bien qu'il doit compter sur la bénédiction de Dieu pour que la vigne donne du fruit, que ce fruit donne du jus de raisin qui donnera le vin, source de la joie, source de joie spirituelle et de vie éternelle. Le deuxième arbre, c'est le figuier, nous dit le texte. Alors il évoque dans la culture juive l'étude de la Bible. Effectivement, la figue est remplie de petites graines partout dans sa pulpe. Et ces graines, multitude de graines, évoquent les multiples interprétations possibles de chaque lettre de l'écriture, de la Bible, nous disent les rabbins. Alors là aussi, quand ce travail d'étude de la Bible se fait en comptant sur l'aide de Dieu pour que l'Esprit de Dieu s'éveille en nous à la recherche d'une certaine élévation qui ne peut venir que de Dieu, alors un espace se creuse pour que l'Esprit de Dieu en nous puisse animer notre intelligence, nos décisions, notre prière. Le troisième arbre est le grenadier. Le mot grenadier a un autre sens en hébreu, ça signifie l'élévation. Alors oui, quand notre louange espère de Dieu une croissance qui est impossible sans lui, alors nous sommes comme élevés par Dieu. Et l'olivier, enfin, nous promet que nous serons comme une source d'huile sainte, une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous, à l'image du Christ, qui est l'olivier annoncé par les prophètes, et même le double olivier vu par Jean dans l'Apocalypse. En ce jour-là, en ce jour de fête, et ce jour de fête est aujourd'hui, nous dit Agé, en ce jour de fête, nous dit l'Éternel, je te prendrai, toi, mon enfant, et je t'établirai comme le pouvoir du roi, car c'est toi que j'ai choisi. Amen. Thank you. Et je vous propose, pour poursuivre cette méditation, de chanter dans le petit recueil « Louange et prière » le cantique 175 « Adorons Dieu notre Père », les deux strophes de ce cantique 175. Prendre place. Alors, nous allons avoir une annonce faite par les responsables donc du groupe de lycéens.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Pierre Rubac. Je suis responsable du groupe de jeunes des 14-18 ans, et pas le seul d'ailleurs, puisque nous avons aussi...
Donc moi c'est Christelle, je m'occupe de l'accompagnement et de l'encadrement du groupe des jeunes dans ses activités.
Moi je suis un du groupe du jeune, le seul en ce moment. Donc aujourd'hui cette annonce c'est pour rassembler le plus de monde possible pour ce groupe. Ce groupe, ce n'est pas un groupe de réflexion, c'est surtout un groupe de discussion où on parle un peu de la vie de tous les jours. Sinon,
oui. Oui, donc effectivement, comme le disait très justement Arnaud, donc c'est aussi un groupe de réflexion, c'est un groupe de discussion, de débat, qui vient un peu prolonger ce qui est fait au sein des études bibliques, de l'école biblique. Et donc on est là effectivement pour recruter. Et pour recruter, en fait, on avait envie que vous soyez vraiment nos meilleurs ambassadeurs, nos meilleurs recruteurs, en fait. Donc, vous qui êtes grands-parents, parents, frères et sœurs, bah voilà, on est venu vous dire qu'on a besoin de vous pour que vive un peu plus avant des écoles bibliques la jeunesse de l'oratoire. Donc voilà, on a vraiment besoin de vous. Nos activités, donc, généralement, se font une fois par mois lors du culte pour la jeunesse. Nous avons donc nous mangeons ensemble, chacun apporte ce qu'il veut bien apporter, et ensuite nous avons des activités sur du débat, soit des expositions à voir, des films à voir, et après des discussions effectivement sur la foi principalement. Ces activités sont relayées aussi par des activités au niveau de la région, donc les jeunes de l'oratoire ne sont pas seuls, il y a aussi une région qui est derrière, hein, qui travaille avec nous, et on travaille avec elle, et donc Randy est là, qui est responsable jeunesse régionale, pour vous parler un peu du travail qu'il y a sur la jeunesse au niveau de l'Île-de-France.
Merci Pierre, bonjour tout le monde. Comme Pierre disait, je m'appelle Randy, je suis d'origine américaine, dont l'accent. Alors, je suis animateur de jeunes pour l'Église au niveau régional. Et nous organisons plusieurs activités pour toutes les tranches d'âge de la jeunesse, dont les lycéens, l'âge d'Arnaud. Principalement, enfin, il y a deux actions particulières pour cette tranche d'âge. Pierrefonds, c'est notre rassemblement régional de lycéens de 14-18 ans que nous venons de vivre au sein de protestants, en fait, il y a 3 semaines à peu près. C'est un moment fort. Et puis ensuite, un voyage à Thésée pour les lycéens et les étudiants en avril. C'est la semaine après Pâques, du 21 au 27 avril. Voilà, et puis nous avons plusieurs autres activités pour les autres tranches d'âge. Aujourd'hui même, il y a un culte rentrée pour les étudiants et les jeunes travailleurs à la paroisse de Poissy, Passy plutôt, excuse-moi, de Passy. J'ai vu l'affiche à l'entrée. Bon, si jamais vous voulez, j'ai des tracts qui en parlent. Et puis pour conclure, j'ai une petite anecdote pour vous. Par rapport à cette équipe et d'autres que j'ai rencontrés à l'oratoire, dont Juliette Lauverja, Bertrand Marchand, enfin, toutes ces personnes qui ont travaillé fidèlement parmi votre jeunesse. Et c'est en chantant un des chants ce matin qui disait que Dieu révèle ses mystères aux hommes, à peu près. Et c'est ça que j'ai vraiment senti chez eux, chez Pierre, chez Juliette, chez Bertrand et ce matin même chez Arnaud et Christelle que je viens de rencontrer. Et je voulais vous encourager de prier pour eux parce qu'ils œuvrent un peu dans la discrétion, mais c'est un œuvre important, la jeunesse de l'oratoire et de la région. Merci.
Donc on se tiendra tous les quatre à la sortie du culte. Si toutefois vous avez besoin de nous rencontrer ou vous avez envie de nous rencontrer, on se tiendra à la sortie du culte. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
Merci à tous les quatre. Alors le groupe d'étudiants se réunira mardi en fait à 19h30 en face, donc à la maison presbytérale, aux 4 rue de l'Oratoire. Mardi soir à 19h30, lundi soir, il y a le groupe de grec débutant, donc il est encore temps de rejoindre ce groupe pour s'initier au grec biblique et puis pouvoir lire les évangiles, le Nouveau Testament dans la langue originale. Mardi soir, il y a aussi le cycle d'initiation à la théologie. 2 fois par an, nous faisons un cycle de 6 rencontres sur les bases pour mettre le pied à l'étrier dans une réflexion personnelle. Donc tous les 6 mois, il y a 20, 25, 30 personnes qui découvrent ainsi à travers ce cycle la théologie chrétienne. Alors sinon, bien c'est la vente au profit de l'entraide commence déjà à se profiler car c'est fin novembre. Et donc, il y a les cartons qui ont été faits pour vous permettre d'inviter éventuellement des amis à cette fête, finalement. Car effectivement, ce sont des journées où nous avons un bon moment ensemble. C'est l'occasion effectivement de discuter, de bavarder, de se rencontrer dans l'oratoire qui est transformé en brocante géante. C'est aussi une occasion d'apporter une source de financement très considérable pour l'entraide, c'est-à-dire pour des personnes qui ont besoin d'un coup de main dans leur situation matérielle. Alors la brocante géante, parlons-en, elle marche avec ce que nous allons dénicher dans nos greniers, dans nos caves et sur les coins de cheminée trop encombrés. Donc peut-être qu'il est temps de commencer à déjà faire du tri. Et il y a des permanences en général qui ont lieu les samedis après-midi et dimanche matin de fin novembre, où nous pouvons déposer tout cela donc en face à la maison presbytérale. Mais je pense que même en chemin, souvent il y a des gens qui apportent des choses et on arrive à les mettre dans les réserves. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande, et effectivement, le deuxième dimanche du mois, l'offrande est au profit des démunis par le service d'entraide, qui est vraiment une des deux dimensions, avec celle de témoignage de l'Évangile de l'Église. Nous prions Dieu. Seigneur, toi qui aimes le plus petit d'entre nos frères et sœurs, fais que nous soyons un peu à ton image, prenant en considération ceux qui ont besoin de notre aide, d'un geste, d'une parole. Nous pensons grâce à toi aux pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans des démarches administratives. Nous pensons grâce à toi aux victimes de l'injustice, à ceux qui se battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil. Et puis Seigneur, nous te prions pour ceux que tu nous confies, que nous puissions être source de vie pour eux, comme de dignes frères et sœurs de ton Fils. Nous te les confions dans le secret de nos cœurs. Oui, Père, merci pour tout ce qu'il y a de beau dans notre vie, pour ceux qui nous aiment, pour la beauté de ce monde, pour la joie qui nous habite et pour l'avenir que tu ouvres devant nous. Et unis dans une même foi en toi, en communion avec nos frères et sœurs réunis en ce dimanche partout dans le monde, nous unissons nos cœurs à cette prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction qui vient de la part de Dieu, bénédiction qui nous est adressée à chacune et à chacun en particulier. L'Éternel te bénit et il te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Oui, demeure par ta grâce avec chacun d'entre nous, ô Dieu sauveur.